Nous sommes peu nombreux, entre le printemps et la fin des vacances, les chaises sont vides, mais pour une fois je ne penserai pas aux absents, je penserai aux présents, d'abord aux nouveaux, enfin aux nouveaux venus d'aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire, et puis on est content de revoir Suzanne parmi nous, on a souvent prié pour elle, on a subi depuis 2-3 mois beaucoup de vicissitudes physiques, et c'est bien qu'aujourd'hui elle soit là, donc on va se réjouir pour les présents. Pour nous tous qui sommes ici, qui avons la possibilité d'être ensemble pour partager la parole de notre Seigneur. Donc, pour les personnes qui arrivent aujourd'hui, nous avons régulièrement dans cette assemblée l'habitude d'étudier l'évangile de Jean. Voilà, donc environ 2 fois par mois, nous sommes plusieurs à nous succéder pour avancer dans l'étude de l'évangile de Jean. Ça s'appelle les figures imposées. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au chapitre 12. Donc, juste après la résurrection de Lazare. Et c'est les 11 premiers versets d'un épisode que nous connaissons tous, évidemment. Donc, je vais commencer par le lire. Donc, Jean, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Évidemment, nous connaissons cet épisode. Et, comme tous les épisodes connus, il est toujours difficile d'aller mettre des vérités sur quelque chose qui est aussi bien écrit et aussi explicite. Là, on est dans de l'événementiel. Il y a certains passages où on est dans de la réflexion, où Jésus nous livre des pensées. Et là, on est vraiment dans des événements précis. Donc, l'idée, c'est comment essayer de voir ce que ces événements précis, en dehors du fait historique, peuvent nous apporter quelque chose à nous, chrétiens de l'an 2014. La question se pose à chaque fois, et à chaque fois je suis, comme toutes les personnes qui se succèdent à cette chaire, étonné de ce qu'on peut trouver de riche dans la parole de Dieu, et de tout ce qu'elle peut nous dire une fois qu'on gratte un peu derrière les premières phrases et les premiers événements évidents qui nous sont mis à jour. Et je vous avoue que ce passage-là m'a vraiment beaucoup fait souffrir intellectuellement, car je tournais en rond face à ce qui paraissait évident, dit, et à part faire une redite du texte, je ne voyais pas ce qu'on pouvait y trouver d'âme supplémentaire, si je puis dire, pour notre bien à tous. Évidemment, Dieu ouvre les portes et j'ai trouvé des éléments qui, je pense, peuvent nous faire du bien et peuvent nous permettre d'aller plus loin que le texte même. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce texte, d'apparence entre guillemets anodine, qui nous relate des événements qui en soi ne sont pas non plus extraordinaires, est un moment clé du ministère de Jésus. C'est vraiment là que tout bascule, que tous les éléments du mécanisme se mettent en place jusqu'à la mort de Jésus. Dans un film, on dirait qu'on est vraiment au point paroxysme je ne dirais pas, le point de paroxysme où tout va se déclencher, où tout ce qui a été, s'est amoncelé jusqu'à maintenant dans la vie de Jésus telle qu'elle nous a été déclarée, annoncée, là, ce petit épisode-là, en fait, contient en germe tout le drame à venir et toute la fin de la vie terrestre de notre Seigneur. Jusqu'ici, il y avait, depuis le début, un jeu de cache-cache entre Jésus et les autorités, entre Jésus et les hommes. Il vient à Jérusalem, il repart, il fait des déclarations, il revient, on le croit moins, il se promène. Là, maintenant, les choses vont vraiment changer. Donc, jusqu'ici, par exemple, à la fête des tabernacles, dans Jean 7, 10, il est dit, vous vous souvenez, on l'avait vu ensemble, Jésus dit à ses disciples, montez-vous à cette fête à Jérusalem, pour moi je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Mais lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, mais non publiquement, mais comme en secret. Plus tard, dans Jean 8, 59, après que Jésus se soit comparé à Abraham, il est dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Une fois, donc, au début, il apparaît, puis il se retire en secret. Là, ils veulent l'attraper, il leur échappe. Un peu plus loin, dans Jean 9, 34, à propos de la guérison de l'aveugle-né, les pharisiens lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes », et ils le chassèrent. Et enfin, à la fin de l'épisode de Lazare, Jean 11, 53, il est écrit, « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. Ils veulent le tuer, il se cache. » Le jeu de cache-cache, si je puis dire, n'a pas cessé depuis le début des évangiles. Et là, maintenant, à partir de ce qu'on va lire, c'est terminé. On rentre dans le dur du sujet, et le dur va devenir très dur, puis épouvantable. Vous connaissez la fin comme moi. Au point que, juste avant notre chapitre que j'ai lu, le dernier verset, c'est le 57, « Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. » Donc là, on est dans la chasse à l'homme. La tête est mise à prix, on est dans le « wanted », grande affiche. Vous le voyez, vous nous le dites, on l'attrape. Et ça, c'est très nouveau. Jusqu'ici, ce n'était pas ça. C'était quelques tentatives, on le prend, on essaie de le lapider, on lui court après, on lui pose des questions, on le chasse. Maintenant, c'est officiel. Vous le trouvez, ce Jésus, vous venez nous le dire, et on l'attrape. Ce qui, déjà, quand on fait un wanted, il y a toujours une récompense, nous amène sur la trace de Judas. Et on arrive donc à cet épisode. Pour moi, cet épisode, c'est le repas de l'angoisse. Il y avait un film célèbre qui s'appelait « Le porc de l'angoisse ». Là, on est vraiment dans un repas où tout est réuni pour que ce soit vraiment, derrière les faits tels qu'ils sont énoncés, c'est un film d'horreur. C'est-à-dire que c'est une ambiance épouvantable, délétère. Si on y était, ça devait être irrespirable. Reprenons. Ça commence par Jésus arrive à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Vous imaginez, on est à Béthanie, il y a un souper et à la table, il y a un mort. Quelqu'un qui est revenu des morts, qui, il y a quelques jours auparavant, sentait déjà, quand on l'a sorti du tombeau, moi je ne sais pas, si j'étais à la table de quelqu'un qu'on a sorti du tombeau et qui mange à côté de moi, je ne pense pas que l'ambiance, malgré la joie qu'il soit revenu, soit extraordinaire. Il doit y avoir une espèce de pesanteur, de je ne parle pas d'odeur, de choses très particulières qui se met en place. Il y avait, pour ceux qui connaissent Molière, Don Juan, à la fin, il y a le commandeur qui a été tué par Don Juan et qui revient, sa statue, qui revient vers Don Juan, qui lui dit « Acceptes-tu de venir dîner avec moi ce soir ?» Donc ça fait très peur, et Don Juan accepte, évidemment, et le commandeur le tire avec lui et l'emmène aux enfers. Donc c'est un peu cette idée-là. Les gens dînent avec un mort. Ensuite, nous avons Marthe qui sert et Marie qui est à ses pieds. Et là, il y a une espèce de forme de comique, entre guillemets, de répétition. C'est pas très drôle. À chaque fois que nous voyons Marthe et Marie, il y a la Marthe qui travaille et Marie qui est aux pieds du Seigneur. Puis, dans cette ambiance un peu bizarre, il y a une attitude encore plus curieuse. Nous avons Marie qui se met aux pieds donc de Jésus et qui casse un vase de parfum et qui commence à lui laver les pieds. D'habitude, ce qu'on lave quand on veut rendre honneur à quelqu'un, surtout quand c'est un roi comme Jésus, c'est la tête. On le voit dans les deux rois 9-3, où quand on voulait oindre le nouveau roi d'Israël, je n'ai pas le bon, ce n'est pas grave, je demande de me faire confiance. Ah oui, ça, c'est pas, je ne pense pas que ça... Je n'ai pas pris le bon verset. C'est un peu plus tard, c'est aucune importance. Là, il est dit dans plusieurs versets, quand le prophète désignait le nouveau roi d'Israël, on lui baignait la tête de parfum, d'huile, pour montrer que c'était le geste qui lui donnait la puissance de la royauté. Et là, ça peut être la tête dont Marie s'occupe, ça va être les pieds. Ensuite, il y a, et c'est dit un peu plus tard, une odeur de parfum qui se met en place, qui rentre dans la pièce. Alors, l'odeur de parfum, c'est la marque de la présence de l'Éternel. On le voit dans Luc 1:10, quand Zacharie vient faire prendre son service au temple. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Là où était le parfum dans le temple, le Seigneur était là. Et donc, dans cette scène un peu particulière, avec ce mort, avec cette femme qui sert, l'autre qui est à ses pieds, qui lui lave les pieds, dans cette odeur générale, je pense dans une forme de silence un peu gêné de la part de tout le monde, il y a les disciples qui sont là. Et parmi ces disciples, il y a Judas. Et Judas, il est décrit là avec une violence absolument incroyable, la figure du traître. Relisons ce qui est dit. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, que tenant la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. Donc là, on a en plus la présentation du méchant, du voyou, du traître, qui donne des mauvais arguments, des arguments de menteur, simplement pour lui tirer bénéfice de la situation. Et on peut voir d'ailleurs que c'est à la suite de cet épisode, on le voit dans Matthieu 26, 14, qu'il prend sa décision vraiment de trahir Jésus. Parce que vous verrez, on en parlera plus tard, que cet épisode est raconté dans d'autres évangiles. Mais là, donc je vous lis juste la suite, donc Matthieu 26, 14, donc à la suite de ça, « Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, je vous le livrerai. » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Le fameux wanted dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, il a enfin trouvé le délateur souhaité, le délateur voulu. Je l'ai. Et après le coup qu'il nous a fait sur ce parfum-là, en prenant dans la caisse, en quelque sorte, et en m'empêchant, moi, Judas, de me servir, eh bien, je vais aller à la caisse des Romains pour pouvoir avoir cet argent dont je pense mériter la totalité de la somme. Mais l'angoisse qui transpire dans cette scène va continuer, puisque Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. On est à table et il parle de sa mort. Et non seulement il parle de sa mort, mais il les prévient que si ils auront toujours des pauvres avec eux à s'occuper, lui, il est là encore pour très très peu de temps. Donc, nous avons en place, comme je disais, une situation, si on avait été là, d'une angoisse absolue. Et cette angoisse-là, elle va sortir de cette pièce-là pour finalement atteindre tous les gens autour d'eux. C'est dit un peu plus tard. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, donc c'est le verset 9, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Donc là, on est dans Closer, on est dans TF1. Il y a eu un ressuscité, il y a un gars qui est revenu des morts, venez, il est à Béthanie, on va aller le voir. On ne va pas voir Jésus, ce n'est pas Jésus qui nous intéresse, ce n'est pas celui qui a fait le miracle, c'est celui qui a reçu ce miracle-là. Donc une espèce d'ambiance malsaine de « venez voir la bête curieuse ». Venez voir l'homme qui en est revenu. Et la conclusion de tout ça, c'est que l'ambiance est tellement malsaine que, après la tête mise à prix de Jésus, il y a une deuxième tête qui est mise à prix. C'est celle de Lazare. C'est dit à la fin, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc la situation de la résurrection de Lazare qui va aboutir à ce repas qui aurait dû être un repas de fête en quelque sorte. En fait, c'est un repas délétère, c'est un repas où tous les éléments de la misère humaine sont en place et ça va même aboutir à une double condamnation à mort. On ne sait pas ce qu'ils ont fait de Lazare par la suite, ce n'est pas écrit. Mais bon, sa situation n'était pas très enviable et en tout cas dans l'esprit, il était condamné à mort. Une deuxième fois, si je puis dire. Donc, je vous l'ai dit, c'est là que tout bascule. Parce que le lendemain de ce repas d'un réalisme horrible, que fait Jésus ? Il rentre dans Jérusalem. Et pour la première fois, il rentre triomphant, puisque le chapitre suivant, les versets qui seront étudiés par Daniel ou Emmanuel, c'est la fameuse rentrée dans Jérusalem sur le petit âne devant la foule qui dit « Hosanna, Hosanna ». Donc là, Jésus, à partir de ce moment-là, rentre dans Jérusalem, accepte de ne plus se cacher comme on a vu, de ne pas fuir, de ne pas essayer d'éviter les gens qui lui veulent du mal, il rentre. Et il dit maintenant c'est fini. Et il ne ressortira plus jamais de Jérusalem. Il y rentre pour y mourir. Et c'est ce repas-là, avec cette Marie qui lui lave les pieds avec du parfum, qui aura été le dernier moment d'une vie sociale qu'on pourrait penser normale, mais qui ne l'était pas, vu tout ce que ce repas contenait d'éléments absolument terrifiant dans l'angoisse qu'il contenait. La nasse se resserre et tout le reste de l'évangile de Jean ne sera que le récit de la dernière Pâque, de ses discours à ses disciples avant de les quitter, de l'arrestation, de la mort, puis de la résurrection. Donc, quand on voit ça sous cet angle-là, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle entre ce repas-là et le repas de la scène, de la dernière scène, de la dernière Pâque de Jésus. Parce qu'en fait, tous les éléments y sont comme des éléments prophétiques. Essayons de le reprendre rapidement. Nous avons dans ce repas-là, Lazare le ressuscité. Le dernier repas de Jésus, ça sera lui. Le futur mort, futur ressuscité. Les disciples sont présents dans les deux cas, Marie lave les pieds de Jésus et les parfume. Et vous savez que là, ça va être Jésus qui va laver les pieds de ses disciples. On dit que dans ce repas-là, le parfum remplit de son odeur toute la pièce. Dans le dernier repas, Jésus se déclare ouvertement le Fils de Dieu, l'homme qui vient sauver les hommes par sa mort. Donc, il est lui-même le parfum présent. Enfin, Judas, enfin pas enfin, il y en a d'autres, là qui contestait, qui n'était pas d'accord avec ce que Jésus faisait de l'argent du parfum, dans le dernier repas, Judas va définitivement livrer Jésus. Dans le repas de Béthanie, Jésus dit, vous avez les pauvres avec vous. On verra dans le repas, le dernier repas, que quand Jésus dit à Judas, fais ce que tu as à faire, les disciples ne vont pas s'imaginer que c'est Judas le traître parce qu'ils ne pensent pas, en fait, acheter quelque chose pour les pauvres, puisque c'était lui qui avait la bourse. Dans l'épisode de Béthanie, vous ne m'aurez pas toujours. Et dans Jean 13, là je vais le lire, 33, mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Et enfin, ça se termine le repas de Béthanie par l'entrée triomphale à Jérusalem. Et là, le dernier repas de Jésus va se terminer par une promenade dans Jérusalem au petit matin, jusqu'au palais de Pilate, au palais de Caïphe avec Hérode, puis ce qu'on appelle le chemin de croix jusqu'au Golgotha. Donc il y a vraiment une relation entre ces deux repas. Et quand on arrive, donc je vous disais, comment est-ce qu'on peut essayer de se détacher d'un texte qui n'est qu'événementiel, en essayant de voir quelle est sa symbolique, là pour moi c'est devenu très clair. C'est-à-dire ce repas-là, c'est la préfiguration de ce que sera le dernier repas de Jésus. Et il contient en germe tout le drame qui sera mis en place quelques jours plus tard. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais là c'est une prédication sur l'angoisse, sur la trahison, sur la mort. Pourquoi aller dire ça? Et on sait bien que l'évangile, c'est une parole de vie, c'est une parole d'espérance, c'est une parole d'amour. Et même si on s'arrête qu'à un extrait, comme on a fait ici, puisque c'est un peu la règle du jeu, même cet extrait-là ne peut pas contenir que ça. Parce que sinon, ce n'est plus la Bible, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est la parole que du mal, si le mal triomphe. Et là, le mal triomphe, manifestement. Alors, la réponse à ça, à cette interrogation, est-ce qu'on n'est que dans le doute et l'angoisse aujourd'hui? Est-ce que ce passage ne nous parle que de ça, comme j'ai essayé de vous le montrer? Il y a évidemment, en cherchant l'autre aspect que nous donne Jésus, que nous donne la parole de Dieu, l'aspect de l'espérance et de la vie. Et pour ça, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait deux autres passages dans les évangiles qui reprenaient cette histoire-là. Dans Matthieu et dans Marc, nous avons, alors de façon un peu différente, alors là je ne rentrerai pas là-dedans, je ne suis pas un exégète, je laisse aux professionnels le soin de dépatouiller, il y a quelques petites différences. D'abord, Marie de Béthanie n'est pas citée en tant que telle, on dit une femme. Ça se passe toujours à Béthanie chez un certain Simon, Simon le lépreux, sans doute un ancien lépreux, alors que là, a priori, on a l'impression que c'est chez Marthe, puisque c'est elle qui sert. Et puis ensuite, là, dans les épisodes de Matthieu et de Marc, ça se situe après l'entrée à Jérusalem, l'entrée triomphale, alors que là, dans Jean, ça se situe avant. Donc quand on étudie un peu les dictionnaires bibliques et les textes des responsables qui ont étudié dans la langue originelle, ils disent que ces problèmes n'en sont pas et qu'en fait, on arrive à retomber sur ses pieds. Je les crois parce que ce n'est pas l'objet de ma prédication de ce matin. Ce qui est important, c'est que l'essentiel est repris, mais repris d'une façon un tout petit peu différente. Donc je vais vous lire pas les deux, parce que Matthieu et Marc, c'est exactement les mêmes textes. Vraiment à quelques mots près, c'est exactement le même texte. Donc on va relire vous allez réentendre la même histoire que celle que je vous ai lue dans Jean, mais vous allez voir, c'est dit différemment. Et le fait que ça soit dit différemment, ça nous ouvre cette fameuse porte du port de l'angoisse vers le port de l'espérance, sinon on n'a rien à faire ici ce matin. Donc Matthieu 26, versets 6 à 13. « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « Mais à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et juste après, il y a Judas qui décide d'aller trahir. Donc on retombe sur nos pieds. Donc vous voyez, c'est la même histoire. Il y a un petit détail. C'est que là, le parfum est mis sur la tête. Alors, les spécialistes disent qu'il a très bien pu commencer par les pieds et finir par la tête. Donc ça ne me gêne pas. Et puis, en le mettant sur la tête, on désigne aussi, comme dans le texte que je n'ai pas retrouvé, je m'en excuse, que Jésus est vraiment loin de Dieu. L'O-I-N-T, celui que Dieu désigne comme le roi. Donc tout ça se complète. Mais là, vous voyez, on n'a pas ce sentiment d'horreur, et de, pas d'horreur, mais de pesanteur qu'on avait avec ce mort qui dînait, c'est cette femme qui est debout qui sert, et l'autre, qui, l'odeur qui est là, Judas qui vient trahir. Tout ça, il fait de manière beaucoup plus, j'allais dire, hollywoodienne, dans le sens, il y a des bons sentiments. Notre premier scénario était un scénario de film d'horreur interdit aux moins de 18 ans. Là, on est dans un scénario à la Pretty Woman, presque. C'est-à-dire, il y a une, on est là, on est à table, une femme fait une belle action, met du parfum sur la tête, qui est déjà plus joli que les pieds. Quelques disciples s'indignent, mais sans qu'il soit question de trahison, de mensonge, de vol. Et puis Jésus termine par ces phrases qui sont absolument fondamentales, deux phrases clés qui nous font verser dans de l'espérance, qui nous font verser dans de la vie et non plus dans la mort comme précédemment. Ces deux phrases, c'est lesquelles? La première, c'est « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» J'en avais déjà parlé, c'est quelque chose que j'avais noté il y a plusieurs années, mais ça me revient. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? C'est absolument incroyable comme puissance. Et ce n'était pas dans la première version de notre repas de Béthanie dans Jean. Jusqu'ici, on avait droit à une leçon d'histoire. Il se passe ci, il se passe ça, il va arriver ici, lui va trahir, lui est revenu de chez les morts, etc. Là, on passe de la leçon d'histoire à la leçon de morale. Cette femme fait quelque chose de bien, elle donne de son argent, sans doute, ou enfin de quelque chose qui lui appartenait, pour faire du bien à Jésus. Et les autres s'emportent contre cette personne, et Jésus la défend d'abord avec ce mot extraordinaire. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Pourquoi faisons-nous de la peine aux gens qui nous entourent quand ils veulent nous faire du bien, ou qu'on ne comprend pas ce qu'ils font? Pourquoi fait-on de la peine à cette femme, à cet enfant, à ce voisin, à ce collègue, à cet époux, à ce parent, à ce frère dans l'église, à cette sœur? C'est quand même une question énorme, ça. Et tout est parti du geste d'amour que fait Marie pour son sauveur. Et la réponse, elle se fait casser. Et Jésus dit, mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Voilà une question qui, dans mon préambule, je disais qu'est-ce qu'un passage comme ça peut aujourd'hui nous dire en 2014. Mais moi, il me dit ça. Quand est-ce que je m'autorise à faire de la peine à un frère, à une sœur, ou à quelqu'un qui pourrait l'être, sous prétexte que son attitude ne correspond pas à ce que moi j'ai envie qu'elle soit? Et si on veut continuer le parallèle entre les deux repas, le repas de Béthanie et le repas de la scène, dans Jean 15, 12, Jésus dit à la fin du repas, maintenant je vous dis le plus important des commandements, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Aimez-la. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est l'ouverture. Non pas vers l'angoisse, mais vers la vie. Parce que si on se pose cette question-là, forcément, on va avoir une relation différente avec les gens. Et on va, si on répond positivement, enfin intelligemment à cette question, on va forcément répondre par de l'amour, non par de la mort. Alors vous allez me dire, le problème c'est que nous, on ne peut pas répandre du parfum sur Jésus, parce qu'il n'est plus là. Donc on a beau faire, on voudrait faire comme Marie et pouvoir montrer notre amour. Le problème c'est que les parfums, ils vont être très très symboliques. Et donc on se sent un peu éloigné de cette vérité-là. Eh bien pas tant que ça. Parce que dans les mystères de la Bible et les trésors de la Bible, vous allez trouver en Apocalypse un petit verset qui résout tout notre problème. Apocalypse chapitre 5. Et je vis, au verset 6, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Là, voilà notre clé, notre 2014. Les parfums, à la fin des temps, que les dignitaires de l'Apocalypse déposent au pied de l'agneau, de notre agneau de Dieu, ces parfums, ce sont les prières des saints. Donc à chaque fois que nous prions Jésus, que nous sommes en communion avec lui, nous lui versons du parfum sur la tête, nous lui versons du parfum sur les pieds. Donc, nous sommes Marie. On peut le faire. On peut s'identifier à elle. Par nos prières, nous versons le parfum. Et du coup, le reproche que je nous faisais quand on nous dit tout à l'heure, ne faites pas de la peine à cette femme, ne faites pas de la peine à ce frère, à cette sœur. On peut l'inverser maintenant, puisque nous, quand nous faisons des prières, nous sommes Marie qui déversons le parfum sur Jésus. C'est ne laissez pas les gens vous faire de la peine. Ne laissez pas les gens vous attaquer. Ne laissez pas les gens vous faire des reproches lorsque vous êtes dans le contact avec Jésus, lorsque vous êtes dans la prière avec Jésus, lorsque vous sentez à l'intérieur de vous, non pas digne de l'amour que Jésus a pour vous, mais dans l'effort d'y être et dans la communion avec lui. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Pourquoi me fais-tu de la peine? Parce qu'on est toujours souvent dans la culpabilité, mais on peut aussi l'inverser, cette culpabilité-là. Et si entre nous, et on parlait tout à l'heure avec Daniel des relations avec tout le monde, du pardon qu'il avait demandé, etc. Pourquoi nous faisons-nous de la peine? Et là, avec cette merveille de verset de l'Apocalypse, cette histoire de parfum, elle devient autre. Et maintenant, je sais, parce que vous êtes un peu compliqué, que vous voulez au fond des choses, vous allez me dire, bon d'accord, c'est Marie. Donc quand elle verse le parfum, c'est moi qui prie. Donc je peux être l'égal de Marie dans cette situation et me projeter aujourd'hui pour comprendre ce que ce texte me dit. Le problème, c'est que Marie, elle a quand même très bien connu Jésus. Elle a été trois fois au pied de Jésus. Quand la première rencontre avec Marthe et Marie, d'ailleurs Marthe lui en faisait reproche. La deuxième, quand Jésus vient, que Lazare est mort, Marthe va voir Jésus pour lui faire le reproche de ne pas être là, mais c'est Marie qui arrive et c'est dit dans le texte qu'elle se jette à nouveau au pied de Jésus pour lui dire, voilà, mon frère est mort. Et puis, bien sûr, ce qu'on vient de voir. Donc, c'est quand même une femme qui a un lien spécial avec Jésus, qui le connaît, qui a partagé des bouts de son existence. Et ça, ça peut mettre un frein entre nous. Et cette histoire de parfum, de prière, parce que ça a l'air quand même d'être une femme assez étonnante, dont on ne parle jamais en mal. Et nous, évidemment, avec notre sentiment de se dire qu'on n'est pas à la hauteur, et puis que tout ça est bien loin, qu'on va pas y arriver. Donc même la prière peut nous sembler inutile, parce que nous sommes tellement loin de cette image de Marie, telle qu'elle nous est présentée, Marie de Béthanie. Ben, ne vous inquiétez pas, parce que là encore, tout est prévu. Et là encore, c'est extraordinaire, parce qu'il y avait une réponse cachée. Et une réponse cachée, alors qu'a priori, on avait l'impression que ça n'avait rien à voir. Je vous ai dit, on a eu la version de l'horreur, mais la version hollywoodienne, et maintenant, Jésus, dans cette Bible, nous offre la version populaire, la version pour nous tous, la version universelle, la version pour nous pauvres pécheurs. Vous avez vu que cet épisode, il est dans Jean, il est dans Matthieu, il est dans Marc. Oui, et Luc, alors, d'habitude, tout ça fonctionne quasiment par quatre. Eh bien, Luc, il n'en parle pas de Marie de Béthanie. Mais il parle d'un autre épisode, d'une autre scène, d'un autre repas où il y a une dame qui vient baigner les pieds de Jésus avec du parfum. Et tous les commentateurs disent, n'en parlons pas, ça n'a rien à voir, c'est un autre moment, d'autres femmes ont pu faire ça. Mais moi, je veux en parler. Parce que s'il y a cet épisode dans Luc et pas dans les autres, c'est qu'il a quelque chose à nous dire à ce moment-là de notre réflexion. Eh bien, c'est la version populaire que l'on va lire maintenant. La version qui reprend ce qu'on a lu jusqu'à maintenant dans Matthieu, Jean et Marc, mais qui la met totalement à notre niveau et qui va répondre d'un coup à toutes les questions qu'on pouvait se poser, tous les doutes qu'on pouvait avoir sur notre capacité à être à la hauteur de l'amour de cette femme pour Jésus, de notre capacité à pouvoir oindre de parfum notre Seigneur bien-aimé. C'est dans Luc, donc, chapitre 7, verset 37. Vous allez voir, c'est la même scène, mais à notre taille, à nous. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et